Bonjour à tous. Ce matin, j'avais un message qui est dans Apocalypse, au chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14, et verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, qui le suivait, disait, elle est tombée Babylone la Grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de sa fureur et de son inconduite. Je m'arrêterai là. On est dans, pour ceux qui ont écouté la prédication, ma dernière prédication qui parlait de cet arbre qui était tombé, qui était l'image de Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Alors c'est effectivement une ville de Chaldée qui est en ruine maintenant, mais c'est aussi tout un système de pensée, tout un système à la fois politique et religieux qui nous envahit de toutes parts, à commencer nous déjà, quand vous voyez le Parlement européen à Strasbourg, il a été construit sur le modèle de la tour de Babel, d'un tableau, d'un peintre qui avait fait une tour de Babel inachevée. Et si vous regardez l'architecture du Parlement européen, elle est inachevée. Après, il faut savoir que dans l'écriture, je ne sais pas si vous avez lu Tintin et Milou et le secret de la licorne, je ne sais pas si vous avez lu, où il y avait des parchemins qui étaient mis dans les bateaux, dans les maquettes, puis qu'il fallait mettre les parchemins les uns au-dessus des autres et puis les mirer au soleil pour voir le texte vraiment où se trouvait le trésor. La parole de Dieu, c'est pareil. Il y a des choses qui se superposent. J'en prendrai un exemple, c'est Matthieu 24, où Jésus donne des prophéties sur la fin des temps. Alors on croit que c'est la fin des temps, on croit que c'est à venir. Sauf que c'est superposé avec la chute de Jérusalem qui s'est déjà passée. Et donc, pour désimbriquer tout ça, c'est un peu difficile. C'est pareil dans l'Apocalypse, il parle de Babylone, mais le texte qui est imbriqué avec Babylone, c'est la grande prostituée qui est sur la bête, qui est en pleine impudicité. En fait, la marque de fabrique de Babylone, c'est l'impudicité. C'est tout ce qui est contre la loi de Dieu, tout ce qui est contre les commandements de Dieu. Et là, il y a un ange qui vient, avant de la chute de Babylone, prévenir tous les habitants de la terre. C'est avant, c'est la miséricorde de Dieu qui prévient les habitants de la terre et qui leur dit « Attention !» Qu'est-ce qu'il leur dit ? Un évangile éternel. Alors un évangile éternel, c'est pas le petit bouquin, c'est évangile en grec, c'est la bonne nouvelle éternelle. La bonne nouvelle éternelle. Vous la connaissez, la bonne nouvelle éternelle ? C'est quoi la bonne nouvelle éternelle ? Allô ? Petit moment de solitude, là. La bonne nouvelle éternelle, c'est le royaume de Dieu s'est approché de nous et que par le sacrifice de Jésus, qui était l'agneau de Dieu, on est justifié, on peut être justifié devant Dieu. Voilà, la bonne nouvelle éternelle, elle est là. Pourquoi éternel? Je vous le dirai tout à l'heure parce qu'on va lire un texte de l'Ancien Testament. Vous allez dire, l'histoire de Jésus, c'est que le Nouveau Testament. Mais toute la grâce de Dieu est en filigrane aussi comme un texte parallèle où la grâce de Dieu n'est pas une invention du Nouveau Testament, mais existe dès le deuxième chapitre de la Genèse. Dès la chute, la grâce de Dieu est en filigrane et l'œuvre du Messie d'Israël est en filigrane. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait avoir une ceinture à serin et une lampe allumée. On va continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être pris dans la chute de cette grande Babylone? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et prosternez-vous et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, tout à l'heure on l'a chanté, ça fait partie de la louange, mais ça fait partie aussi d'une attitude de cœur. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas l'heure, la première heure du culte de dimanche matin. Ça c'est bien, on chante avec notre voix, mais rendre gloire à Dieu, c'est une attitude de cœur. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Craignez Dieu, ça veut dire quoi? Faut-il avoir peur de lui? Je dirais oui, il faut avoir peur de lui quand on n'est pas avec lui. C'est sûr que si on est du côté de Babylone, on peut craindre Dieu de manière de la peur. Mais nous qui avons été réconciliés avec Dieu, c'est un saint respect de Dieu, c'est de le prendre au sérieux, quoi. C'est pas un truc où j'ai signé un jour en bas à gauche et puis maintenant je fais ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux avec Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Et on peut lire dans le psaume 111, pour ceux qui veulent. Le psaume 111. Au verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en aspirent, sa louange subsiste à jamais. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. C'est pas la fin de la sagesse, hein. C'est si vous voulez démarrer, commencez par là. Commencement de la sagesse. Dans Proverbes chapitre 1, au verset 7, c'est pareil, ils disent « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la connaissance. » Vous voulez être intelligent? Qui veut être intelligent? Oui, tout le monde? Bon, c'est bien. Donc craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel parce que c'est le commencement de la science, c'est le commencement de la sagesse. Au psaume 34, je reste dans les psaumes parce que il y a beaucoup de choses dans les psaumes et dans les proverbes en fait. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vous ai dit hein, que le fait d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, c'est d'avoir la louange toujours dans sa bouche. Et mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Alors, préserve ta langue du mal et t'élève de paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Par contre, l'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour les retrancher de la terre, leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont dans qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant. Et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. J'aime bien ce psaume parce que contrairement des fois à ce qu'on pourrait voir ici sur cette terre, où on a l'impression que le méchant prospère et que le juge, enfin, on n'a pas l'impression vraiment de lire ça. Par contre, la vérité, elle est là. Avant ou après, mais la vérité, elle est là. Et si vous voulez échapper aux périodes futures, rapprochez-vous de Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Rapprochez-vous de Dieu et restez sous son ombre. Cherchez pas des choses parallèles. Dieu est capable de nous garder en plein milieu de la fournaise, comme il l'avait fait avec les amis de Daniel. Il est capable. Il est capable de tout. Il est capable de nous garder de tout. Notre responsabilité à nous, c'est de rester, au pied de l'Éternel, au pied de la croix, de rester dans une attitude de louange, de rester, d'avoir les yeux fixés vers le ciel, vers Jésus, vers Dieu. Voilà notre attitude. Ne pas faire ce qu'on veut. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et souvent, je vois que, surtout dans les dernières années, y compris dans l'Église, dans les églises, je vais dire en général, je ne vais pas en citer une en particulier, dans les églises, beaucoup ont perdu la crainte de l'Éternel. Beaucoup ont perdu la crainte de Dieu. Peut-être on a prêché un évangile à l'eau de rose, où tout d'un coup, le Dieu du Sinaï, celui qui, quand il parlait, le peuple essayait de trouver un trou de souris pour se cacher. Je sais pas, il avait peut-être un peu vieilli. Il est devenu pote avec nous. Non. L'évangile est éternel. À l'époque du Sinaï, le Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël est le même que le Dieu de Jésus-Christ. C'est le même. D'ailleurs, il dit qu'il est éternel. Ça veut dire ce que ça veut dire, éternel. Je suis celui qui sera. Il n'y a aucune ombre de variation. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'alliance. Jésus a accompli l'alliance éternelle. Jésus l'a accompli, mais ne l'a pas aboli. On a déjà parlé longuement de ça. Ne l'a pas aboli, il l'a accompli. Il a accompli des choses, mais il respecte cette alliance. Cette alliance, on peut la lire dans psaume 19. Je suis toujours dans les psaumes, hein. Ça évite de tourner les pages. Un petit peu, mais pas beaucoup. Psaume 19, il dit quoi ? Au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres ou les ordonnances de l'Éternel sont droits et ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide et il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies et elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur ainsi en est averti, pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires, pardonne-moi de ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux qui ne dominent pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la prédication de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. La loi de l'Éternel est parfaite. On a souvent, dans notre histoire d'Église, je dirais l'histoire du christianisme, considéré que cette loi était vieillissante. C'était bon pour le peuple d'Israël, hein, mais pas pour nous. Or, c'est le canon. Canon, ça veut dire règle, c'est la règle de base pour mesurer. C'est la loi de l'Éternel. Et elle est parfaite. Une seule chose que le peuple d'Israël ne pouvait pas faire, c'est d'être sauvé par cette loi. Tu pouvais l'appliquer plus ou moins, de toute façon personne ne pouvait l'appliquer correctement, d'autant plus après tout ce que les autres ont rajouté, hein, parce que de 10 commandements, on est passé à plusieurs commandements, et puis de plusieurs commandements, au cours des siècles, on est passé à 613 commandements. C'est dur, c'est qu'on a juste le droit de ne plus rien faire. Mais ce n'est pas la loi de l'Éternel. Il y a la base et la loi de l'Éternel, mais après, il y a tout ce que les hommes ont rajouté. C'est comme nous, hein, c'est pas une invention uniquement juive, c'est aussi une invention chrétienne. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées qu'on ne lit pas dans la Bible. La crainte de l'Éternel est commencement de sagesse. Alors on va voir ce que c'est que la loi de l'Éternel. On peut lire dans Marc, au chapitre 12. Donc je vous dis, on est à 613. Et voilà ce que Jésus dit. Au verset 28, chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, mais il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et plus personne n'osa lui poser de questions. Quels sont ces commandements ? Ils sont simples. Le premier, c'est écoute. Écoute Israël, c'est la prière de base qui est dite plusieurs fois par jour, je crois. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Est-ce que nous, chrétiens, on prie plusieurs fois par jour ? Écoute, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire quoi écouter? Ça veut dire se poser, arrêter un peu tes activités. Écoute ce que j'ai à te dire. Ça commence comme ça, la prière du matin. Écoute, Israël. Écoute, j'ai des choses à te dire. Souvent, moi le premier, hein, je pars habillé en tête sans écouter. Pourtant, Jésus dit, recevez mes instructions. Parce qu'il y a le passage où il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, je vous donnerai du repos. Alors ça nous plaît bien. Recevez mes instructions. Ça veut dire écoutez-le, hein, simplement. Écoutez-moi, car mon fardeau est léger, etc., etc. Donc écoute, c'est la première loi. Et la deuxième loi, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être. Que ça soit spirituellement, physiquement, matériellement, dans ton âme, dans ta pensée, dans tout ce que tu veux, tu dois aimer l'Éternel. Alors, ce qui en découle de ça, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prochain, on a déjà prêché qui c'était. Hein. C'est tous ceux qui ont besoin de toi. Tous ceux qui ont besoin de connaître Dieu, qui ont besoin. Tu es leur petit Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans la détresse. Des fois, ils disent, tiens, j'ai vu un ange qui est passé. Mais des fois, l'ange, ce n'est pas forcément l'être céleste. L'ange, c'est toi. Et tu es l'ange de Dieu, tu es l'ange de l'Éternel. Tu as aidé, tu as été celui qui a été l'instrument. Dans Romains, Romains 13 aussi, on peut lire. Romains 13 au verset 8. La vie chrétienne, elle est très, très simple. La vie avec Dieu, elle est très simple. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tiens donc. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, les 10 paroles, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu n'as pas envie de le tuer, tu n'as pas envie de le voler, tu n'as pas envie de lui piquer sa femme. Tu n'as pas envie de convoiter sa voiture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Accomplis plusieurs des commandements qui sont dans les 10 commandements. Plusieurs, pas tous. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair, pour satisfaire ses convoitises. Et là, il y a le premier, c'est ne devez rien à personne, c'est les commandements qui sont accomplis. Si vous aimez, si vous approchez de Dieu, si vous aimez ceux qui vous entourent. Mais il y a aussi la suite, comme l'ange, hein, le premier ange, c'était l'évangile éternel, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Et le deuxième ange, il disait quoi? Elle est tombée, Babylone la Grande. Et Babylone la Grande, c'est la grande prostituée. Et la grande prostituée avait juste, on parle de l'impudicité, mais elle avait aussi une chose. elle était enivrée. Elle était enivrée. Et souvent, on lit dans les lettres de Paul de ne pas s'enivrer, parce que c'est de la débauche. Et là, c'est un passage qui le dit, là. Marchant nettement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Vincent, la semaine dernière, a prêché sur le fait d'être rempli de l'esprit, de Saint-Esprit. Mais ne soyez pas enivrés, parce que si vous êtes enivrés, que vous avez autre chose que le Saint-Esprit en vous, forcément, vous êtes du côté de Babylone. Éphésiens 5. Au verset 15, ou même au verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ te resplendira sur toi. Et là, au verset 15, il y a un avertissement. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de l'Éternel. Il est là le passage. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Veillez donc, souvent il est marqué veillez, priez, mais là c'est veillez donc, mais c'est un peu plus. Veillez donc avec soin. C'est pas je veille comme ça, c'est je veille avec soin sur ma conduite. Non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence. Je vous ai dit comment, c'est quoi l'intelligence? Le commencement de l'intelligence, c'est quoi? Ah, c'est la crainte de l'Éternel. Donc ne soyez pas sans intelligence et ne soyez pas aussi sans crainte de l'Éternel. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc si on craint l'Éternel, normalement, on est suffisamment proche pour connaître sa volonté. Bien sûr, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et c'est côté de la grande prostituée de Babylone. Maintenant, si on est rempli de l'esprit, on est dans la crainte de l'Éternel. Et c'est le combat de tout chrétien. C'est de quel côté je vais pencher. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est assez bref. Maintenant, pour vous montrer que l'évangile est éternel, que la bonne nouvelle est éternelle, on va retourner dans Ésaïe, le prophète Ésaïe. D'ailleurs, ce qui est bien dans le prophète Ésaïe, c'est quand on commence les chapitres 50. Chapitre 52, c'est la Jérusalem qui est restaurée. Le chapitre 53, c'est le Messie qui est retranché, qui souffre pour sauver son peuple. Le chapitre 54, c'est la nouvelle alliance de paix avec Israël. Et le chapitre 55, c'est aussi pour nous. Alors on va le lire, le chapitre 55. Vous tous qui avez soif, est-ce que vous avez soif? Vous tous qui avez soif, la soif de Dieu, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous pensez que le roi David, historique, a été le conducteur des peuples? Je pense pas. Enfin, il était le roi de Judée, le roi du peuple de Juda et même du peuple d'Israël en entier dans les 12 tribus une partie de sa vie. Mais il n'a jamais été le roi de toutes les nations. Ça, c'est une image filigrane. On sait que Jésus est le fils de David, enfin, est de la généalogie de David. On sait que le Messie est de la généalogie de David. Donc quand il est parlé de David dans des termes comme ça, c'est forcément trait au Messie. C'est le Messie, la descendance de David, qui est le conducteur des peuples, les témoins des peuples. Le commandant des peuples, d'ailleurs, quand il y a un autre passage dans la... je ne sais plus où, où il dit que le Messie fera paître les nations avec une verge de fer. Donc il a autorité sur toutes les nations. Ce n'est pas juste le Messie d'Israël, c'est le Messie du monde entier. C'est le Messie de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos lois ne sont, et vos voies ne sont pas mes voies. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Et vous sortirez dans la joie, et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamations devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Si vous avez soif, même dans l'Ancien Testament, venez à l'Éternel. Le salut est gratuit. C'est étonnant ce passage disant que celui qui n'a pas d'argent vienne et achète. Allô ? On peut acheter quelque chose sans argent ? Ça veut dire que le salut est gratuit. Est gratuit. Mais c'est parce que quelqu'un d'autre a payé. Parce qu'il n'y a rien de gratuit. Si le salut est gratuit pour vous, c'est que quelqu'un l'a payé pour vous. Quand on vous paye le resto, ben on vous paye le resto, c'est gratuit pour vous, mais il y a quelqu'un qui a quand même passé l'addition. Et on sait qui a passé l'addition. C'est Jésus qui est mort sur la croix, qui a fait le sacrifice de l'agneau pascal pour nous sauver du péché. Pour nous sauver, c'est lui qui a tout payé. C'est lui qui a tout payé. Voilà l'évangile éternel. Il était déjà dans Ésaïe, le proclamait déjà. Déjà dans le chapitre 53, mais aussi dans ce chapitre-là. Et on pourrait lire le 56, mais il y a tellement de choses à dire. Je vais conclure par Matthieu 6. verset 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir de maître. C'est pas possible. Je sais que j'ai déjà essayé, hein. Vous inquiétez pas, je suis pas. J'ai déjà essayé, hein. On peut être chrétien et puis on peut essayer aussi de voir si on peut concilier dans le compromis. Mais déjà, quand vous conciliez dans le compromis, c'est que vous êtes déjà au pied de cette dame qui est montée sur une bête. Non, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Il n'y a pas de no man's land. Il n'y a pas de... Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu. De toute manière, soit on haïra l'un et on aimera l'autre, et vice-versa, on méprisera l'autre. Mépriser l'autre, c'est l'absence de crainte de l'Éternel. Quand on n'a pas la crainte de l'Éternel, on méprise un peu ce qu'il a fait. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que beaucoup d'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? C'est pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que ne boirons-nous » ? De quoi serons-nous vêtus ? Car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez tous ce passage-là. Il est d'actualité, ce passage-là. Parce que moi, je vois, même chez les chrétiens, la crainte, et pas la bonne crainte, hein, c'est pas la crainte de l'Éternel, hein. C'est la crainte du Covid-19, c'est la crainte du chômage, c'est la crainte du chaos. Oui, ça. Mais qu'est-ce qu'il est dit là ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu peut peut-être juger l'Europe, peut peut-être juger les nations. C'est pas la première fois. Il dit de toute façon, dans les derniers temps, ce sera de plus en plus et de plus en plus fort. Alors, il y en a qui disent, par mesure de simplicité, nous, on ne sera pas là, on sera tiré là-haut. J'en sais rien, parce que dans les Écritures, bon, on peut dire ce qu'on veut. C'est une interprétation comme une autre. Mais si, dans le cas où on n'est pas tiré là-haut, ce n'est pas pour ça que si on est sur Terre et qu'il arrive des choses qui doivent arriver, on ne soit pas non plus à l'abri. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on se tire là-haut qu'on est à l'abri. Sur Terre aussi, Dieu nous garde. Dieu nous garde. Il est marqué d'ailleurs dans une des lettres de l'Apocalypse, je te garderai du jour de la tentation. Je te garderai. Est-ce que Dieu n'a pas gardé son peuple en Égypte quand il y a eu les 10 plaies d'Égypte ? Ils étaient prévenus. Bah tiens, aujourd'hui, il faut rentrer le bétail parce qu'il va y avoir de la grêle. Et tous les animaux étaient tués, sauf ceux du peuple d'Israël. Mettez du sang sur vos portes, parce que l'ange destructeur va passer. Israël a été gardé. Israël a été gardé. Et pourtant, ils étaient en plein milieu de la fournaise, on va dire. Donc ne craignez pas. Ne craignez pas les choses qui vous entourent. Mais craignez l'Éternel. Soyez je veux dire collé à l'Éternel. Je vois un enfant, quand il a peur de quelque chose, il vient se coller à la jambe de sa mère. J'ai vu ça hier. c'est un réflexe. Craignez l'Éternel. Venez à Dieu. Venez à Jésus. Abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il vous accueillera. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses compassions sont grandes. Amen.
Alléluia. Je vais juste rajouter un verset parce que c'est dans Matthieu 10, à partir du verset 28. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous cultivons beaucoup de choses. La crainte, Lionel vient d'en parler. On a la crainte du Covid, on a la crainte de ci, de ça. Et on a oublié la crainte de l'Éternel et qui est tout à fait juste. Merci Lionel. Et dans Matthieu 10, à partir du verset 28, ne crains pas ce qui tue le corps. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là à toujours craindre ce qui peut nous arriver physiquement. Et on va se donner un mal fou, on va payer des assurances, décider ça. Ne crains pas ce qui tue le corps, mais ce qui peut tuer l'âme. L'âme et le corps dans la géhenne, ce qui peut détruire. On peut détruire ton corps, mais si ton âme est en Christ, tu vas pour l'éternité. Et ce sont ceux que vivent les martyrs, et ce que certains de nos frères et sœurs en Algérie et ailleurs, ou en Inde, qui vont proclamer la parole, ils n'ont pas peur qu'on leur fasse du mal, parce qu'ils savent que leur âme, elle est déjà pour l'éternité. Mais combien de fois nous faisons attention à notre propre corps, à faire des régimes de ci, de ça, à ce que nous mangeons. Nous n'avons qu'à comparer les dressings des uns et des autres. Est-ce que vous manquez de vêtements? Ou plutôt ça déborde de partout? Mais par contre, est-ce que votre âme, elle déborde de crainte de l'Éternel? Est-ce que votre âme déborde de louanges, comme c'était dit? Est-ce que votre âme est à l'écoute de ce que l'Éternel veut? Comme l'a dit mon frère Lionel. Écoute! Combien de temps passons-nous à nous taire et à écouter Dieu? Nous sommes dans un monde rempli de bruit en tout genre. Ne crains pas ce qui peut détruire ton corps, mon frère, ma sœur. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui peut détruire ton âme pour l'éternité dans l'enfer? Là est la question. Et si tu te poses cette question-là, tu vas te tourner vers l'Éternel. Et l'Éternel est fidèle et juste. Il t'attend. Il veut te bénir. Il veut prendre soin de toi. Écoute. Lionel l'a très bien dit. La parole n'a pas changé. Ses ordonnances n'ont pas changé. Il est toujours ce Dieu jaloux. Il l'a très bien dit. Si on commence à rentrer dans le compromis, combien au jour d'aujourd'hui il y a du compromis dans nos vies, dans tel ou tel domaine? Et après nous disons, Seigneur, je prie, je ne vois rien s'accomplir dans ma vie. Si tu fais déjà ce que je te demande, peut-être que les choses vont changer. Mais ça veut dire que l'ennemi de nos âmes a un droit sur nous, par ce compromis, par ce péché que nous conservons. Dieu l'accomplit et Lionel l'a bien sorti. Nous pouvons l'accomplir en nous aimant les uns les autres, en ayant de l'amour pour notre prochain. Combien au jour d'aujourd'hui manque d'amour? Vous voulez étudier votre amour? Regardez-vous quand vous réagissez. Analysez une situation et comment vous allez réagir. Vous allez voir votre niveau d'amour pour l'autre. Est-ce que c'est Jésus qui sort ou c'est autre chose? Vous avez votre réponse. Je vous l'ai déjà dit, mais faites le test chez vous et faites-le. Mettez-vous dans une salle silencieuse. Écoutez ce qui tourne dans votre tête. Est-ce que ce sont des chants de louange ou c'est autre chose? De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Mes pensées sont quoi? Tournées sur les plaisirs de ce monde? Sur ce que je voudrais? Ou ils sont tournés vers Jésus, ce que toi tu veux? Parce que je sais que tu as tout bon pour moi. La parole de Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui la rendons un peu plus édulcorée? Je rends gloire à Dieu de ce message de mon frère, qui est juste. Mais ne serions pas là à applaudir un message, Alléluia, et puis dès que nous partons, nous l'avons oublié. Il l'a très bien lu dans la parole. Dieu fait pleuvoir, neiger, et de sa parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Est-ce que nous allons endurcir nos cœurs ou est-ce que nous allons considérer ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère pour nos vies et de nous améliorer, de considérer nos voies à la lumière de la parole que notre frère nous a apportée? Ou est-ce que nous allons considérer d'abord tout ce que l'on voit de l'extérieur et dans ce cas-là, il y aura ce joli verset, vous êtes que des tombeaux blanchis, nous ne serons pas mieux que d'autres, parce qu'à l'intérieur, nous sommes morts. Ne crains pas ce qui peut détruire ton corps, mais crains ce qui peut détruire ton âme, car d'elle viennent les sources de la vie. Amen. Merci, oh merci Lionel pour ce message. Merci pour ta parole. Moi, plus ça va, plus elle me parle, plus... Oh, tu es bon, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci de ces hommes, de ces femmes qui creusent la parole, qui nous la portent, ils prennent du temps. Oh, merci, fais-lui du bien. Que la bénédiction soit sur sa maison. Mais je veux que la bénédiction soit sur toutes vos maisons. Que cette parole ne parte pas sans avoir fait son effet dans vos vies. Et que nous puissions considérer nos voies. Est-ce que nous craignons plus l'homme que Dieu? Père, je te loue de ce que c'est ton esprit, parce que toi tu es à la droite du Père, donc tu n'es plus sur terre. Mais que ton esprit puisse accompagner mes frères et sœurs pendant toute cette semaine. Que ces paroles puissent résonner dans leur cœur. Qu'ils puissent chercher, te demander, Seigneur, qu'est-ce qui cloche dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir ta parole? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter des chants de louange? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre ou de réorganiser ma vie, de réorganiser mes journées pour avoir ce temps? Je sais qu'il a des bénédictions pour chacun de vous. Il veut vous parler personnellement. Il vous aime. Moi, je m'attends vraiment à ce que le Saint-Esprit puisse... vous saisir, vous faire comprendre ce que mon frère vous a apporté, qui m'a apporté, pour que nous le ramenions à la maison, que nous le mangions, que nous réfléchissions. Moi, je prends des notes, parce qu'il y a des fois, je retourne dans mes notes pour retrouver le fil conducteur. Mais au fait, qu'est-ce qu'il a dit que... Oh Seigneur. Mais j'attends aussi que tu déverses ton esprit, tes dons, pour qu'il n'y ait pas que deux personnes ou trois qui prophétisent. Mais que ce soit, nous soyons un peuple de sacrificateurs pour Dieu le Père. Chacun là où nous aura appelés, pour la gloire de son nom. Et je vais vous bénir dans le beau nom de Jésus. Que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent pour toute cette semaine dans le beau nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.